Moi, je vote faux.
Allez, je vote faux aussi.
Eh bien, c'était vrai.
Oh la vache.
Unhosted est aussi disponible en podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous écouter en format audio, quand vous êtes en voiture, quand vous faites du sport. C'est super pratique, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël Bloch.
Bonjour.
Qui est journaliste et cofondateur du média The Big Whale. Et Jérôme de Tichet, qui est cofondateur de Comet et président d'Ethereum France.
C'est ça.
Et d'autres choses. Je ne sais pas combien tu as de titres, d'ailleurs.
Comet et Ethereum France, c'est mes deux activités principales. Ouais.
Aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui est assez connu sur YouTube. On va faire un concours d'anecdotes. Donc, les règles du jeu. Chacun d'entre nous va raconter une anecdote, chacun son tour. Les deux autres devront deviner si elle est vraie ou fausse.
OK.
C'est chacun pour soi. On compte les points. Et à la fin, celui qui a le moins de points devra offrir quelque chose à la commu. Donc, okay. On va tirer au sort quelqu'un dans les commentaires. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé des anecdotes et de la vidéo. Et le perdant devra décider ce qu'il offre à la commu.
OK, bah excellent. Excellent, excellent.
Allez, c'est parti.
Vous avez déjà fait des concours d'anecdotes ou pas ?
J'ai jamais fait de concours d'anecdotes, donc...
Pas filmé. Enfin, ouais, déjà, mais ouais. Soirée, quoi. Mais pas, pas filmé.
OK. vous voulez commencer ou je commence ?
Eh bah, allez, honneur aux dames, tu commences.
Allez.
Ouais, ok.
Eh ben, vas-y, première anecdote. Donc, l'anecdote est la suivante. On est en 2018. Donc, en 2018, moi, je gère une boîte qui s'appelle Blockchain Partner, qui est une boîte de conseil aux entreprises. J'ai une quinzaine de salariés. Et je suis contactée par un intermédiaire qui me dit Binance veut se développer en France et cherche des boîtes à racheter en France. Est-ce que ça vous intéresse ? Donc là, nous, on est partagés avec mes associés, notamment Alexandre Stachenko, que vous connaissez. Mmh. Parce qu'on se dit, bon, Binance, c'est quand même un acteur controversé. Et en même temps, à l'époque, Binance a déjà notoirement beaucoup d'argent. Ouais. Ils font déjà plus de bénéfices que la Deutsche Bank. Moi, je vis dans un studio de 14 mètres carrés. Je commence à voir mes potes qui achètent des apparts. Donc,
c'est tentant.
On se dit, bon, voilà, on est quand même tentés.
Puis Binance, en plus, 2018, c'est le bon moment
c'est
du marché.
Exactement, ouais. C'était le bull market, ils étaient à fond.
Enfin, c'était quand même le début de la fin du bull market, mais c'est vrai qu'ils sortaient d'un lancement qui était stratosphérique.
Ouais, c'est ça. Ils avaient vraiment une poche de trésor impressionnante. Et donc, on se dit, bon, OK, on y va, mais si on y va, il faut vraiment que ce soit pour beaucoup d'argent et qu'on ait plus besoin de bosser. Et donc, à l'époque, nous, en gros, on fait 1 million de chiffre d'affaires. Donc, notre valo, réalistiquement, sur le marché, c'est peut-être 2 millions max. Et moi, je dis à Alex, bon, bah, on peut gonfler le truc, peut-être proposer 5 millions. Et là, Alexandre me dit, non, Claire, il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus loin. On va demander 20 millions. Parce que, à l'époque, Stratum avait levé des fonds sur une valeur à 20 millions. Ouais, voilà, exactement.
À l'époque,
et
ça
puis,
jouait.
Et puis, il me dit, non, mais son argument qui tenait, c'était de dire, si Binance nous achète, ce qu'ils achètent, c'est pas le conseil en France, c'est en fait un cheval de Troie pour venir s'implanter en Europe et en France. Donc, ça a une valeur beaucoup plus importante que juste le business. Donc, alors le truc, c'est que pour lui, c'était super facile de défendre ça, parce que c'est pas lui qui a dû y aller. Et donc moi, j'ai pris l'avion, je suis allée à Malte pour rencontrer Sisi, pour lui présenter Blockchain Partner. Donc faut imaginer le truc, il y a un hôtel 5 étoiles, le mec avait une suite énorme au dernier étage.
Il faut que t'ailles au bout de ton anecdote pour dire que c'est faux ou pas.
Non, mais non. Attends. Donc j'arrive dans cet hôtel, je pitch le truc à Sisi. Je me souviens, il m'a dit un truc, c'était « You look like a very smart person ». Et donc je lui pite le truc et évidemment après ce qui s'est passé c'est que notre intermédiaire quand il a compris la valeur qu'on voulait il nous a dit non mais vous voulez vraiment 20 fois l'EBITDA et on n'a plus de nouvelles et donc évidemment on n'a pas vendu à Binance.
Ils n'ont même pas fait de contre-offre.
Non, après à 20 fois l'EBITDA ouais, si tu fais une contre-offre.
Après peut-être, peut-être qu'Alexandre était inflexible sur
voilà
sur
et après comme Raph l'a dit c'était aussi un peu le début du bear market donc,
Vous avez été trop gourmand quoi.
Bon alors messieurs cette anecdote est-elle vraie ou fausse?
Moi je pense que cette anecdote est fausse.
Écoute, moi, je pense aussi qu'elle est fausse, mais j'aimerais tellement qu'elle soit vraie. C'est super emmerdant. Donc, je vais dire qu'elle est vraie parce que j'espère que c'est vrai. Ça me ferait trop marrer.
Eh bien, messieurs, tout est vrai.
Eh bien, voilà. C'est ouf.
Tout est vrai. Et je me souviens, j'étais trop mal à l'aise. Faut que tu imagines le truc. Tu vas défendre que ta boîte qui fait 1 million de CA... vaut 20 millions et tout et tu piches le truc à 6.
Attends mais ça c'est pas le enfin oui
c'était lunaire.
Mais c'est pas entre guillemets je trouve ce qu'il y a de plus dur parce qu'à la limite bon vous avez quand même fait du super boulot avec Blockchain Partner
ouais.
Et tu dis bon allez défendre ce que vous avez développé auprès d'un grand groupe enfin je veux dire je trouve ça assez normal et d'en demander beaucoup par rapport à tout ce que vous avez fait ça à la limite ça me choque pas tant. Non, c'est plus effectivement, je trouve qu'aller à Malte rencontrer, en fait, à l'époque, quelqu'un qu'on connaissait quand même assez peu.
Ouais.
Ça, pour le coup, je trouve
qui
ça...
Qui est devenu beaucoup plus célèbre par la suite.
Ouais, exactement.
Mais à l'époque, il était quand même déjà bien célèbre parce qu'il était entouré d'une espèce de garde rapprochée. Enfin,
Je pensais que c'était faux, principalement parce que dans les interviews de Sisi, il dit régulièrement qu'il aime bien croître en interne, qu'il aime bien tout garder en interne, qu'il n'aime pas trop aller chercher les trucs à l'extérieur.
Enfin, après, c'était il y a un moment déjà. Mmh. Et je pense qu'il ne savait pas trop. Enfin, tu sais, Binance, c'est créé en 2017, donc il devait exister depuis un an et demi. Ouais. Donc, je pense qu'il n'était pas encore super clair sur la stratégie. Et en fait, c'était une série de pitch, sa journée au mec. C'est-à-dire qu'il était dans sa suite au dernier étage. D'accord. Et en fait, avant moi, il y avait un autre entrepreneur. Ouais. Après moi, il y en avait un autre.
Puis il n'a rien acheté finalement en France.
Et finalement, à ma connaissance, il n'a rien acheté en France.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est... OK, super, super intéressant. Effectivement, on savait qu'ils avaient eu une politique assez agressive, mais qui ne s'est pas tellement matérialisée. Notamment en Europe, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'acquisitions. Mais c'est vrai que je ne savais pas que même vous aviez été approché, quoi.
Ouais, bah écoute, ça s'est pas fait. On a revendu avec KPMG, mais pas pour 20 millions, quoi. C'est pas grave.
Ok, cool.
D'accord. Yes.
Lequel d'entre vous veut y aller ?
Je vais y aller.
Vas-y.
2021, être ici, donc c'est... Attends, on avait eu Covid en 2000... Voilà, 2000, ouais. 2000, Covid 2020, on évite... Ouais.
Attends, explique juste ce que c'est que l'être ici, parce que je pense qu'il y a des gens qui...
Le Covid, déjà...
Non, le Covid, ça va...
Explique qui tu es, explique le Covid, la blockchain.
Alors, être ici, c'est l'acronyme de Ethereum Community Conference, ETHCC. Donc, vous trouvez le site ethcc.io. C'est la conférence Ethereum, ou même la conférence blockchain, qui a le plus grand nombre d'éditions de l'histoire de la blockchain, je crois, à peu près. Parce qu'on a fait la première sous le nom EdCon à Paris.
Ouais. Il y en a quoi, 7 ou 8,
en partenariat avec Blockchain Partner aussi à l'époque, je crois que vous étiez
impliqué. C'est vrai, ça date, j'avais oublié cette histoire.
C'est passé à l'ESCP et tout.
On avait un sponsor chinois qui voulait nous payer.
Il y avait 300 personnes, c'était LinkTime qui avait fait
Donc définitivement, beaucoup d'histoires avec la Chine quand même.
La TVA passait par Taïwan, je crois. Il y avait tout un micmac.
Ouais, c'était un vrai bazar.
C'était un vrai bazar. Bref, et on a fait SCC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on prépare le 7e, qui n'aura pas lieu à Paris pour cause de Jeux Olympiques, a priori. Je ne sais pas, peut-être qu'ils n'auront pas lieu. Mais en tout cas, nous, on a décidé de ne pas le faire à Paris à ce moment-là. On le fera à Bruxelles cette année. Et on a eu beaucoup de chance parce que c'est une conférence qu'on a pu faire pendant le Covid. C'est-à-dire qu'on a organisé l'édition numéro 5. Qui était en fait donc la sixième, on a fait la cinquième édition, genre la semaine avant le Covid. Et il se trouve que il fallait organiser les CC de l'année suivante, mais on savait pas si on allait pouvoir le faire en mars 2021 ou pas. Donc on commence à repousser, les contacts qu'on avait dans les ministères nous disaient oui, peut-être, on verra, etc. Et on a fini par avoir plus ou moins un green light pour le faire en juillet. En tout cas, on nous a dit, si vous le faites en juillet, a priori, ça va passer. C'est pour ça qu'être ici, s'organise en juillet, parce que le calendrier des conférences bouge et tout ça. Bref, juillet 2021, donc on se prépare à faire être ici. Donc tout ça est vrai, je vous le dis, ça fait pas partie de l'anecdote. Non, l'anecdote, c'est qu'on a eu beaucoup de gens qui ont décidé de venir à la dernière minute pour être ici 2021. Et notamment des gens qui sont très coutumiers du fait, ces gens d'Uniswap nous regardent, arrêtez de vous manifester à la dernière minute. Ils viennent chaque année, mais à la dernière minute, ils sont là, ouais, c'est parti, on voudrait faire, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué de refuser Uniswap au dernier moment et tout. Ouais. Parce que c'est quand même le plus grosse DAP sur l'écosystème Ethereum. Et donc en 2021, on a quelqu'un qui s'appelle Ashley Schwab, qui, je crois, était leur head of ecosystem partnership. S'occupait du développement de la communauté et des partenariats avec le reste de l'écosystème pour Uniswap. Il lui dit, moi, en fait, je suis dispo, je vais vraiment venir faire un talk et tout. Il y a moyen. Okay, ça marche. Donc, Ashley vient le jour de son talk. Et à la fin de son talk, toute l'équipe juridique d'Uniswap nous harcèle d'email, nous cherche dans le lieu, nous va nous chercher en disant il faut absolument take down ce talk, on peut pas laisser ce talk en ligne.
Elle veut pas le publier.
C'était live streamé. Donc on a reçu énormément de demandes avec des arguments juridiques sur des trucs, sur des.
Et ça portait sur quel point ?
Eh ben, ce talk n'est plus disponible en ligne.
Ah, donc on peut pas savoir en plus.
Est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce que c'est anecdote?
Non, mais attends, et donc tu vas nous dire pourquoi. Non, mais là, c'est trop.
C'était quoi le sujet? C'est quoi le sujet de la conf?
Raphaël, il veut faire un tweet là, tu sais, il a son téléphone à côté.
Ok, donc c'est.
T'as pas le droit de le dire en plus?
Bah, donc l'anecdote, c'est fait, que finalement, vous avez supprimé.
L'anecdote, c'est qu'on a supprimé le talk en question, que ce talk est au programme, que ce talk a eu lieu, qu'il a été live streamé, mais qu'il est a priori complètement inaccessible en ligne.
Ah non, c'est trop là.
Alors, est-ce que cette anecdote est vraie ? Est-ce que cette anecdote est vraie ?
Ou
est-ce que
cette anecdote est vraie ?
Ça veut dire que vous ne faites pas signer des... Normalement, tu fais signer des contrats et tout quand tu fais parler des gens, tu vois. T'as des accords des droits d'image.
Bah oui. Mal, bah, c'est peut-être pour ça, en fait.
Ce serait pas non,
mais c'est peut-être pour ça que vous vous êtes fait allumer. C'était quand, déjà ?
2021.
Putain. 2021 ? Et vous ne souvenez pas de ce talk de Ashley
Schwab à... C'est tellement busy.
En fait, moi, elle est ici. Je vais sur les stands, je vais picoler à côté.
Nous, on est plutôt...
Les conférences sont blindées et tout.
Bon, allez, tu sais quoi ? Allez, je vais dire que c'est vrai.
Moi, je vais dire aussi que c'est vrai.
Ouais. Eh bien, cette histoire est entièrement vraie.
Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut savoir ?
Voilà, alors, et alors, pourquoi ?
Eh ben...
Là, il hésite, là. Là, il hésite à le dire. Là. Allez, on coupera au montage, si tu veux, vas-y.
Alors, en fait, Uniswap, à ce moment-là, avait quand même pas mal de problèmes au niveau régulation américaine. De considérer, est-ce que le Unitoken est une security ou pas est-ce que, est-ce que, en fait, c'est un peu comme une multitrading facile si Uniswap, est-ce qu'ils permettent de faire des choses ? Est-ce que, voilà, et tout. Et à l'intérieur du talk, il y avait beaucoup de la mécanique interne d'Uniswap et beaucoup des fonctionnements même d'Uniswap qui étaient exposés par quelqu'un qui était officiellement chez Uniswap et qui disait, bah voilà, nous, en fait, on fait des trucs comme ça, on fait des trucs comme ça, on a des problèmes comme ci, mais on a aussi des problèmes comme ça, et voilà.
Et donc, si vous aviez laissé ce talk, ils auraient pu se prendre une requalification en security
Et alors, ils ont vraiment beaucoup, 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 beaucoup flippé. Et on a fini par dire, you know what, c'est bon.
Ok.
On s'en fout. Mais non, le talk n'est pas si introuvable que ça, mais en tout cas...
On va aller chercher.
On va aller faire une belle pub.
Ok.
Je crois qu'ils sponsorisent pas cette année, donc c'est bon.
Okay, ah oui, d'accord. Ah oui, bah je vois comment on fonctionne. ok.
C'est à toi.
Ouais, alors, moi, la mienne, là, elle date de 2022. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on s'est lancé, donc quand on a lancé The Big Whale avec Grégory et Dimitri, en avril, donc c'était la campagne présidentielle.
Ah oui.
Et nous avons interviewé Emmanuel Macron. Donc on s'était lancé vraiment en courant avril et deux semaines après, on a réussi à avoir donc celui qui allait être de nouveau le chef de l'État en pleine campagne. Ça a été un gros carton cette interview parce que il abordait les sujets tech. Alors évidemment, on n'a pas uniquement pu lui parler de tout ce qui est crypto blockchain. C'était un peu au sens large, mais on a quand même pu aborder ce sujet. Et en fait, moi l'anecdote. Elle concerne plus le contexte dans lequel on l'a vu. Donc, c'était, comme vous pouvez l'imaginer, hyper intense. Fin de campagne, surtout le deuxième tour qui se préparait. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été convoqué à l'Élysée, en fait, en fin de week-end, là où c'était un peu plus calme, une semaine avant le second tour.
Donc, entre les deux tours,
ouais, entre les deux
le
tours,
mec a donné une interview à
Demi. En fait, il en a donné plusieurs, mais c'est vrai que nous, on était des nains. Quoi. Alors après, on avait un bon réseau et on connaissait plusieurs membres de son équipe, mais on n'est ni Le Monde, ni Le Guardian. Et donc, je dis à Greg, écoute, rendez-vous donc dimanche en fin d'après-midi. J'avais dit, franchement, ne prévois rien dans ton week-end, ça peut se débloquer à dernier moment. Et donc, on se pointe, Greg habillé comme d'habitude, avec sa petite chemise, petit pull, parce que bon, c'est le printemps, mais il faisait pas un temps de rêve. Et donc, on a été reçus, en fait, tu peux rentrer à l'Élysée par des portes un peu dérobées. On a passé presque une heure avec le chef de l'État, il y avait deux, trois conseillers, et une personne que je salue de loin, qui nous a permis d'avoir cette interview. Et donc voilà, donc on l'a fait. Ce qui était assez amusant, c'est qu'on était au départ très impressionnés, puis en fait, ça s'est bien passé. Et voilà, on l'a publié. Effectivement, ça a été un gros coup. Et pour l'anecdote, on est en train de préparer de nouveau une interview avec le chef de l'État. Voilà. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse, le fait
que vous l'ayez vraiment vu, quoi.
Qu'on l'ait vraiment vu.
Je veux dire que la... Parce que moi, je me souviens de cette interview.
Ouais, je me souviens aussi.
Mais effectivement, je ne sais pas si c'était une interview, genre vous avez envoyé les questions.
Ouais, et puis moi c'est ce que je me suis dit. Moi, je me suis dit, parce que c'était quand même assez politiquement correct comme propos. Et donc, je me suis dit, vous avez envoyé les questions. Et
alors, juste quand même, pour ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'Élysée, donc pour les chefs d'État, vu que, même si ça concerne des sujets tech, vu que ça engage, c'est une parole officielle, même si tu es en campagne, il faut savoir, c'est que tu fais toujours relire. Nous, on le fait pas dans d'autres conditions. Mais quand c'est effectivement un chef de gouvernement ou chef d'État, là, tu fais relire, ce qui explique aussi...
Oui, que ça a été politiquement correct.
Que c'est un peu policé, un peu retravaillé. Non, enfin, pas sur le fond, c'est plutôt la forme.
Ouais.
Parce que de fait, quand on s'exprime, même si on s'appelle Emmanuel Macron, ou on parle normalement, donc il y a des redites, il n'y a pas forcément chaque détail technique. Par contre, sur le fond, oui, et là-dessus, on avait été pas mal bluffé.
Ok.
Moi, je pense que vous n'avez pas été reçu à l'Élysée entre les deux tours.
Entre les deux tours, moi, j'y crois pas. Moi, franchement, je me dis, c'est quand même impossible. C'est, tu te dis, normalement, il prépare le débat, surtout, à ce moment-là.
Il a fait le débat
de second tour,
Oui, bien sûr. Il a refait face à Marine Le Pen, je crois.
Ouais.
Non, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est faux.
C'est faux.
Alors effectivement, nous ne sommes pas allés à l'Élysée. Bien joué. On l'a eu à distance, mais on s'est pas rendu sur place, même si.
Il était sur Zoom avec son Audi.
Et c'est pour ça. Mais effectivement, donc on a fait ça à distance, et c'est vrai que en fait, l'Élysée n'est pas utilisée en fait pendant la.
Bien sûr.
Pendant la.
Ça m'a fait un petit kiff.
Voilà, pendant la campagne.
L'utilisation quand même du truc.
Il continue de résider. Enfin, il est quand même chef d'État en transition.
Et il déménage pas pour deux semaines, quoi.
Mais il vous a quand même donné une interview entre les deux tours.
Voilà, mais par contre, on a quand même eu l'interview et on l'a publiée. Et effectivement, c'était assez intéressant parce qu'on a quand même pu parler des sujets crypto, blockchain, notamment. Il y avait toute une partie sur le gaming. Et effectivement, ça a été un gros coup. Mais nous ne l'avons pas vu effectivement physiquement. Mais voilà.
Ok. Trop bien.
Donc bien joué, je viens de vous donner quasiment deux points.
Merci.
Je m'en veux.
Donc là, on est de nouveau en 2017-2018. Donc je suis toujours CEO de Blockchain Partner. On gère une boîte de conseil avec mes associés. Et on cherche de nouveaux axes de développement parce qu'on a eu une belle croissance, mais. Voilà, on sent qu'on plafonne un peu et on se dit comment est-ce qu'on pourrait se développer en faisant d'autres choses que le conseil. Et là, on regarde les différents business qui existent autour de la crypto, on regarde une carte d'Europe et on se rend compte qu'en France, il n'y a quasiment pas de machines à Bitcoin. Vous savez, les
ATM.
Les ATM Bitcoin, exactement. Les machines où tu arrives avec ton cash pour acheter des Bitcoins ou ta carte bleue et tu achètes des Bitcoins. Et donc là, on se dit, mais attends, il y a une grosse opportunité business.
C'est encore une idée de stage, ça.
Puisque, tu vois, en Suisse, il y en avait, par exemple. Il y a plein de pays en Europe où tu as plein de machines.
Non, pour une anecdote,
il n'y en avait pas en France.
Une anecdote vraie, c'est que Justin Drake a commencé comme ça.
Mais non, c'est vrai.
Il a lancé des ATM Bitcoin à Cambridge, au UK.
Ok.
Putain.
Bah, nous, alors, évidemment, à la fin de l'anecdote, vous saurez pourquoi on n'a finalement pas fait ça. Mais l'histoire, c'est quand même qu'on a acheté les machines à Bitcoin. Donc on a acheté 6 machines à Bitcoin. Il y avait, pour l'anecdote, ceux qui connaissent les marques, il y avait des BitAccess et des General Byte. Donc on s'est retrouvé avec 6 énormes machines à Bitcoin. C'est quand même assez gros ce truc. Il faut être 3-4 pour la soulever. Ça coûte, à peu près 5000 euros la machine, un truc comme ça. Donc elles arrivent. Nous, à l'époque, on est dans un incubateur. Donc il faut se représenter le truc. On est 5, je pense, dans. Un truc qui fait la taille de ce studio.
Je crois que je me souviens de vos bureaux en plus.
Voilà, avec des murs orange. C'était dans un incubateur qui s'appelle Dionys à Paris.
Ah non, j'étais pas allé. Moi, je crois que je vous avais vu après dans vos
bureaux.
Oui,
dans ceux qui étaient luxueux par rapport à ceux qu'on avait avant. Donc, on était déjà hyper serrés. Donc, impossible de stocker les machines dans nos bureaux. Donc, on les stockait chez les parents de ceux qui habitaient en banlieue. Donc, il y a des parents de certains d'entre nous qui ont stocké des machines à Bitcoin. Et on en a placé une dans un bar à Paris, qui est un bar dans le 2e arrondissement. Je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé à cette industrie, mais c'est tout un bazar parce qu'effectivement, il faut avoir recours à un prestataire qui gère le cash de manière sécurisée et tout. Donc, on place cette machine et là, on réalise qu'en fait, les logiciels qui existent pour marcher sur ces machines ne sont pas conformes à la réglementation française. Et qu'en fait, la réglementation française, elle exige qu'à chaque fois que tu ailles sur la machine, tu refasses un KYC. Or, ces logiciels-là, ils te le demandent la première fois, mais après, ils ne te le demandent pas.
D'accord, ok.
Et donc, on se retrouve avec 6 machines à Bitcoin sur les bras. On avait quand même dépensé genre 30 000 balles pour les acheter, tu vois. Donc, c'était pas négligeable, qui étaient stockées chez les parents et tout.
Elles venaient d'où, les machines?
bah, deux prestataires. Enfin, c'est des boîtes qui fabriquent des machines.
Ça, c'est un bon plan, ça. On va lui demander d'où viennent les machines.
Non, c'était il y a 6 ans. En plus, c'est pas moi qui les avais achetées.
Cette anecdote est fausse.
Et donc, pour la petite histoire, on s'est retrouvé avec ces machines stockées pendant des mois chez les parents et on a fini par les vendre parce qu'un de mes associés est allé poster des annonces sur des forums pour réussir à vendre des machines et on les a revendues avec une décote. Et donc, on n'a finalement jamais fait de business de machines à Bitcoin en France.
J'aimerais tellement... Tellement vous soyez effectivement un jour retrouvé avec ces foutues machines sur les bras.
Moi, je pense surtout que c'est faux parce que
mais le marché à l'époque.
Donner du Bitcoin au comptoir, ça se faisait à la maison du Bitcoin à l'époque.
Ouais.
Il y avait ça comme service disponible et ça marchait pas de ouf. Donc je vois mal les éminents décisionnaires de Blockchain Partners se dire ça c'est un bon business.
Ouais,
c'est comme un investissement à la con. Hein.
je pense que c'est
franchement je suis flatté par cette compliment, Jérôme, merci.
Ouais, mais si c'est vrai c'est gênant.
Après sur un coup de tête si le marché est vraiment super bullish.
Ceci dit,
c'est parti.
Alors c'est vrai,
je rappelle qu'on était en plein boulot.
Oui, non, c'est ça exactement, c'est-à-dire que précisément vous avez acheté en 2017.
Je dirais 18 mois. Honnêtement,
autant lancer un exchange, quoi. Tu vois, c'est peu ou un autre.
C'est la période où on prenait plein de belles décisions au niveau business. Tu vois.
Non, mais c'est vrai.
Aller voir Sisi et tout.
Vous avez acheté un peu de 3D.
Ouais, mais alors c'est vrai que. C'est dur.
Moi, je vote faux.
Allez, je vote faux aussi.
Eh bien, c'était vrai.
Oh la vache. Oh la vache.
Eh bien, c'était vrai. Ouais, ouais.
Ah, c'est magnifique.
Ouais, on a essayé plein de trucs.
Mais juste, alors, qui est quand même le décisionnaire final? Enfin, à un moment donné, qui a appuyé sur le bouton pour acheter ces 6 foutues machines?
Dans mon souvenir, c'était mon associé Antoine.
Antoine,
ouais,
ah oui.
Qui voulait vraiment développer plein d'activités. C'était notre directeur commercial, Antoine. Donc,
malin. Ok, oh, génial. Ouais. Ah, vous avez vraiment eu ça, la vache.
Alors moi j'ai une anecdote de 2024.
Oula.
Ah ouais.
Très récente. Voilà. J'en profite pour lancer un peu le média, je le pousser un peu les trucs, quoi, que ça fasse un peu de buzz. Comme vous le savez, Sisi va se passer à Bruxelles.
Ouais.
Et dans mon rôle personnellement au niveau d'être Sisi, c'est que je fais le talk d'ouverture pour dire voilà, bienvenue à Sisi, édition numéro. Et je fais aussi un petit talk de fermeture en général pour dire bon bah c'était cool cette année, l'année prochaine on fera ça et tout. Et pour marquer un peu le coup cette année, on a essayé de faire venir des personnalités belges pour faire un peu briller la conférence aussi. Et en se demandant qui est-ce qui était belge et très connu à l'international, on est tombé sur Jean-Claude Van Damme. Yeah. Et donc on a négocié que Jean-Claude Van Damme vienne faire le talk d'ouverture, l'annonce, le lancement d'être ici.
Non, mec, j'y crois pas, c'est impossible. Et tu nous l'annonces là ?
Et je vous l'annonce là.
Ah, c'est extraordinaire.
Alors, franchement, c'est chiant parce que ce serait énorme.
On n'a pas encore placé le talk de Vitalik. Mais si on fait un truc...
Genre l'un après l'autre.
Si tout va très bien, on pourrait avoir...
Les deux sur scène en même temps.
On pourrait avoir les deux sur scène en même temps avec un check. Uh-huh. Peut-être ouais, quoi que Vitalik est grand, un high kick au-dessus de Vitalik, c'est compliqué.
Ouais, puis faut pas qu'il se rate, hein, parce que s'il lui met en pleine tronche, c'est quand même sûr.
Mais donc voilà, c'est mon annonce. Cette année, le talk d'ouverture sera fait par Jean-Claude Van Damme à HCC, à Bruxelles, le 11 juillet.
11 juillet, c'est
ça. Et alors, ce sera annoncé quand la vidéo sortira, parce que
Ce sera annoncé quand la vidéo sortira, oui. Là, c'est là le DocuSign a été fait ce matin. C'est pas donné comme prestation. On peut se le permettre parce que notamment on a plus de sponsors cette année. Les tickets sont un peu plus chers pour les coûts de fonctionnement en général. Et c'était pas donné, mais c'était pas non plus excessif d'avoir Jean-Claude à la conférence. Alors, est-ce que cette anecdote est vraie ou est-elle fausse?
Ok, alors franchement, je pense que vous avez. Enfin, je pense que c'est faux. Je pense qu'on n'aura pas Jean-Claude Van Damme, même si franchement, je trouve ça extraordinaire qu'on l'ait en ouverture.
Parallèle, est-ce que The Big Whale veut l'interview de Jean-Claude Van Damme?
Ça peut se négocier. Non, mais en fait, je pense qu'on vous l'a peut-être proposé, parce que vous cherchez des personnalités, d'où peut-être l'anecdote, mais non, je dirais faux. Mais excellente. Excellente anecdote.
Ah, moi, j'y crois pas. C'est faux.
Donc, ben, c'est faux.
Oui, c'est faux. Okay. Et c'est faux. Il fera un panel. Stress. C'est faux, il fera un panel. Et là, merde.
C'est faux, et, mais.
Mais ça aurait été marrant.
Mais ça pourrait devenir vrai.
Ah ouais. C'est dans les
chiffres.
Ça ne
change rien au score, a priori.
Ok.
Ça aurait été merde, parce que c'est vrai que là, tu nous donnes 2 points, là.
Ouais.
Ok. Mais elle était excellente.
Mais c'était une très bonne anecdote, ouais.
Elle était excellente.
J'ai imaginé Jean-Claude Andamanet ici et j'ai beaucoup ri.
Tu sais, entre deux chaises et tout, ouais. Ça aurait été monstrueux. Alors moi, mon anecdote, elle remonte à l'année dernière. Donc là, on vient d'organiser la deuxième cérémonie des awards, donc pour récompenser les personnalités et projets de l'industrie crypto. D'ailleurs, je crois que tu étais effectivement nommé dans les jeunes talents et je crois que toi, Jérôme, vous aviez été dans la shortlist, mais bon, pour le coup, c'est un vote de la communauté et c'était pas allé au bout. Et en fait, mon anecdote, elle concerne la première édition des Awards. En fait, quand on l'a organisé, on s'est dit, on avait plusieurs choses en tête. Un, on voulait pas que ce soit trop long, parce que les Awards, ça peut quand même être globalement, enfin, vu qu'on fait ça de manière assez classe, c'est assis, on veut pas prendre les gens en otage pendant 3 heures. Et puis, on voulait pas non plus que ce soit trop sérieux.
Ouais.
Et donc il fallait qu'on ait un moment un peu de respiration et même potentiellement qu'on puisse rigoler.
Jean-Claude Van Damme.
Et en fait à l'époque on n'avait pas pensé à Jean-Claude Van Damme. et en fait non, mais ce qui est très marrant, c'est que on a donc Léo, je crois Philippi, enfin il m'excuse si j'écorche son nom de famille, mais c'est le Crypto Comedy Club. Donc
ah oui.
Voilà, qui il est
ah
très
oui,
marrant.
Il fait des sketchs.
Exactement,
sur
il fait des sketchs, il fait ouais. des sketchs. Et en fait bon. Il gagne vraiment à être connu parce que aujourd'hui Crypto Comedy Club est pas assez connu, mais il est assez marrant. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il avait donc premièrement candidaté chez The Big Whale comme je crois que c'était sur le marketing ou le commercial. Et puis en fait, donc Dimitri, notre CEO, l'avait reçu et je crois qu'il avait été très mauvais dans tout ce qui est marketing commercial. Par contre, il avait glissé à Dimitri, t'es un mec, moi je suis un drôle quoi, je peux vous faire marrer. Donc Dimitri s'était dit. Attends, on organise les awards, peut-être qu'on peut l'avoir là, en fait, notre moment marrant et ce moment de respiration au milieu de la cérémonie. Et donc, Léo prépare son texte, on l'a laissé bosser plutôt tranquillement, et l'idée, c'était un peu de faire marrer, de raconter ce qui se passe dans cet univers. Je crois que Dimitri l'avait un peu aidé sur 2-3 vannes, et puis, nous, on n'était pas au courant de ce qu'il allait dire. Et ce qui était sympa, c'est qu'il y avait beaucoup de gens de l'industrie qui étaient présents ce soir-là. Et en fait, pendant 3 minutes, Léo a flingué tout le monde. C'est-à-dire qu'il a balancé van sur van. Et il a vraiment,
sur les gens qui étaient dans la salle.
Sur les gens qui étaient dans la salle. C'est-à-dire que bon, nous, on voulait rigoler. Mais globalement, il a allumé. Donc, il y avait Sébastien Borgé avec The Sandbox. Alors, nous aussi, on s'est fait allumer. Mais c'était sur mode, est-ce que vous connaissez des gens qui jouent à The Sandbox? Moi, j'ai jamais vu un pote qui s'est dit, putain, j'ai passé le week-end dans The Sandbox. Voilà, et c'était ça pendant 3 minutes. Et en fait, bah, y a même des gens qui se sont en fait levés. Quelques personnes qui se sentant un peu insultées parce qu'il y allait quand même assez fort, en fait, se sont barrées de la cérémonie. Voilà. Donc, est-ce que cette anecdote...
Ouais, j'étais pas là, ça.
Et vrai, ou fausse, mais voilà, il y en a quelques-uns qui ont quitté la salle parce qu'il y allait, il y allait un peu fort sur ses vannes. Ça en faisait marrer certains, mais il y en a d'autres qui l'ont pas très bien pris.
Est-ce que la communauté crypto
n'a pas d'humour,
la blague facile.
Ouais.
Ouais, je pense que c'est faux.
C'est faux.
Ouais, c'est faux. C'est faux, tout le monde était mort de rire.
Je vais remonter un peu.
Oh là là, je suis toujours à la traîne.
Ouais. Non, non, mais effectivement, c'est faux. Donc, il a évidemment fait son spectacle, ouais. qui était excellent. Et en fait, tout le monde était plié en deux.
Okay.
Et en premier, Sébastien Borgé.
Alors, on est en 2021. Et donc, nous, on a revendu Blockchain Partner à KPMG.
Ouais.
20 pas, millions du coup 20
pas
fois Binance
et pas 20 non. millions
okay.
et
moins d'un million tu sais.
Et on fait une soirée de en gros de lancement quoi avec KPMG en mars 2021 où t'as en gros des partenaires KPMG, des membres du directoire qui viennent nous féliciter d'arriver. Il y a les 15 personnes de chez Blockchain Partner.
Combien de fois on t'a demandé tu peux m'expliquer la blockchain en 2 minutes s'il te plaît?
Beaucoup, beaucoup trop de fois. Beaucoup trop de fois.
Juste 30 secondes, ouais. Vite fait, juste pour
quand la chaîne de blocs. La
non,
chaîne
je
de
passe
blocs.
En mode veille quand on me le demande, ça devient trop facile. Et donc, on est à cette soirée. Et, Et c'est quand même un moment où on est en bull run, donc les cours montent. Et donc même des partenaires KPMG assez tradis s'intéressent au sujet et se disent « Ah, c'est intéressant, on doit en acheter et tout ». Et là, tu as un membre du directoire de KPMG qui nous dit « Ah, quand même, KPMG pourrait acheter du Bitcoin, quoi ». Et là, on est trop chaud, tu vois, évidemment. Et donc, tu as Alexandre, mon associé, qui dit « Bah ouais, carrément, ça serait super, ça permettrait de faire un gros coup de com', ça permettrait de moderniser aussi un peu les fonctions finances de KPMG pour acheter du Bitcoin et tout ». Et le partenaire dit « Ouais, puis on pourrait en acheter une petite somme, je sais pas, 1 million d'euros, quoi ». Alors nous, on s'attendait pas du tout à cette somme-là, mais bon, on se dit « Trop cool ». Et donc, on lance le dossier. Sauf qu'évidemment, acheter du Bitcoin chez KPMG, ça se fait pas en claquant des doigts comme ça. Donc, il faut passer devant des instances, des COMEX et tout. Et donc, on fait des slides. Et c'était Alexandre qui s'en occupait. Il allait pitcher devant le COMEX de KPMG pour dire « Voilà, les gars, pourquoi il faut acheter du Bitcoin chez KPMG France ?» Et donc, les COMEX se passent. Alors, tout ça est évidemment un peu long. Ça prend quelques mois.
Et le cours évolue.
Le cours évolue. Le cours monte, en fait, hein, ouais. Globalement. Et la conclusion, après discussion avec les risques et tout, c'est OK. Mais bon, pas 1 million. On est redescendu à 100 000. Et par contre, on le fait pour apprendre comment faire, mais on communique pas dessus. Zéro com. Et donc, maintenant, je peux vous le dire parce que je suis plus chez eux. Mais KPMG France a acheté 100 000 euros de Bitcoin. C'était en septembre ou octobre 2021. Et on était un peu deg de ne pas pouvoir communiquer.
Est-ce que
cette anecdote est vraie?
Après avoir quitté KPMG, même 3 ans après, tu aurais le droit de révéler cette anecdote?
Moi, j'ai un autre argument.
Attends.
Non, mais vas-y, attends, finis, Jérôme, mais on répondra ensemble.
Le doute s'instille, mais je t'en prie.
Non, mais alors, pour le coup, moi, c'est un vrai cas de conscience, parce que je me souviens KPMG, donc Canada, a communiqué.
Oui, tout à fait, ils ont annoncé, après, on était d'autant plus deck qu'ils l'ont fait.
Voilà, exactement, et donc là c'est un vrai cas de conscience, parce que je me souviens qu'on en a beaucoup parlé, donc en fait, j'ai envie de répondre que c'est faux, parce que si c'est vrai, je me sens... Non mais trahi, parce qu'on avait parlé de KPMG France, c'était genre, non, on l'a pas fait.
Ouais, en même temps, j'avais pas le droit de dire qu'on l'avait fait.
Oui,
hein,
je sais, mais là où je rejoins Jérôme, c'est que je suis pas sûr que tu puisses vraiment le faire. Ou alors, en tout cas, ce qui est super, c'est que nous, ça nous fait une méga info.
C'est... Beaucoup d'infos aujourd'hui.
Non, mais allez, je vais quand même dire que c'est faux. Je pense que vous l'avez vraiment fait, mais vous avez pas acheté, en fait.
Alors, vu l'état des scores, moi, stratégiquement, il vaut mieux que je dise vrai.
Merde.
Moi, je pense que je vais dire vrai, alors.
Ok, donc moi je vais dire.
Il y a du stratagème.
Mais parce que je pense qu'effectivement vous avez pitché, vous êtes allé au bout, mais ils n'ont pas eu l'audace d'en acheter.
Ok, donc toi tu penses que c'est faux?
Moi ouais. Je pense que c'est vrai.
Je vais pas me faire des potes.
Et c'est faux.
Aïe aïe aïe.
Come on. Yes.
mais t'as raison, on a pitché le truc.
Oui, c'est sûr.
Ouais, à fond. Ils nous ont dit écoutez, vous êtes gentils.
Ouais.
Mais non. D'accord, on n'a pas réussi.
2017, première organisation d'ETCC, ça se passe en mars en 2017. Et ETCC s'était décidé un peu à la dernière minute. Ouais. C'est-à-dire qu'on était à Cancun pour DevCon en novembre. On se rend compte en novembre 2017 qu'il n'y aurait pas de conférence en 2018. Donc je profite de Cancun pour aller parler un peu à tous les speakers de DevCon 3 pour leur dire, allez, venez à Paris, on refait une conférence, ça va s'appeler ETCC, ça va être génial et tout. Ça marche, c'est-à-dire que les gens veulent venir, on vend quelques sponsor slots, on arrive à rentrer dans nos frais et puis on lance ETCC. La veille de ETCC, en fait, tout est mis en place, tout est bien, on est tranquille et puis on se dit le lendemain matin, c'est parti, on va faire notre conférence. Je me réveille avec énormément d'appels en absence de quelqu'un qui s'appelle Taylor, qui était la CEO de My Etherwallet. Je ne sais pas si vous connaissez cette application.
Ouais, carrément.
Appel en absence, message, can you call me back, machin, un truc. Je suis l'organisation, je lance la conférence, on verra bien quoi. Et elle est effectivement en retard à son talk et je finis par rentrer en contact. Elle me dit, ok, je vois vraiment que je bouge mon talk de quelques heures et tout parce qu'on a eu des gros problèmes hier soir. Je te raconterai. La veille de la conférence. Et donc elle finit par venir, elle fait son talk et elle me raconte ce qui s'est arrivé, ce qui s'est passé. Donc elle est venue avec toute son équipe de My Etherwallet à Paris et notamment le stagiaire de My Etherwallet qui avait 18 ans tout pile, on pouvait voyager mais n'avait pas du tout l'âge de boire, en tout cas pas aux États-Unis. Ils ont fait une teuf avant ETCC, le veille d'ETCC. Ils ne trouvaient pas le type dans la soirée. C'est-à-dire, ils l'ont cherché dans la soirée.
Ils ont perdu le stagiaire.
Et en sortant de l'immeuble, ils ont trouvé le stagiaire étalé par terre. En fait, il fumait une clope sur le balcon et il est tombé.
Mais non.
Donc là, ils appellent les ambulances. Il a l'air à peu près conscient, mais il a peut-être cassé quelque chose et tout. Les flics débarquent aussi et ils se retrouvent à la police à 4h du matin en train d'expliquer que on est là pour une conférence Ethereum. Ethereum, c'est ça. Ouais, on va parler là-bas. Et puis lui, il bosse pour nous, mais c'est un stagiaire. On le paye en crypto. voilà. Et il faut qu'on prévienne ses parents parce que c'est vrai qu'il a pas 21 ans, mais bon, en France, il peut boire à cet âge-là. Enfin, bref. Et donc, ils se sont retrouvés énormément en retard et tout. Et puis, conséquence de cette histoire, c'est que le gamin n'avait absolument rien de cassé parce que quand on a 18 ans, on est indestructible. Ils ont eu juste un peu de retard du côté de la conférence pour leur talk. Voilà. Est-ce que cette anecdote est vraie?
Alors.
Ou est-ce que cette anecdote est fausse?
Moi, j'ai envie de dire que c'est vrai.
C'est vrai. Moi aussi. Moi aussi, j'ai envie de dire que c'est vrai.
Ouais, je pense que c'est vrai.
C'est absolument vrai.
Ouais.
Jérôme, je crois que tu vas devoir offrir un truc à la gommée.
Parce qu'en fait, tu racontes trop bien les histoires. Donc en fait, derrière, on se dit, c'est vrai.
C'est ça.
Non, ouais, ce sera 2019. À l'époque, j'étais encore aux Échos. Et ça faisait déjà 3 ans que je bossais en tant que journaliste sur les sujets crypto. Et en fait, j'avais écrit à l'époque, j'avais quelques relations chez Facebook, qui n'était pas encore devenu Meta. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que c'était en 2018 ou peut-être 2017, mais il y avait déjà des articles de Bloomberg. Sur Libra. Il y avait deux, trois trucs.
Ça n'a pas changé de nom au milieu.
Il y a eu Diem entre temps, mais en fait, donc, je les avais contactés. Parce que il y avait 2-3 fuites dans les médias et je me disais, putain, c'est intéressant et j'aimerais bien en savoir un peu plus. Et j'avais commencé à échanger, mais il ne s'était rien passé. J'avais pas eu d'interview, rien avec les équipes de Facebook. Et ce qui s'est passé, c'est que les choses se sont accélérées pour eux, donc fin 2018, début 2019. Et ils ont présenté, je crois, de mémoire, le 18 juin 2019. Donc ils ont officialisé le lancement de Libra. Et en fait, je crois que c'était 3 semaines ou 1 mois avant, on avait été quelques journalistes briefés par Facebook à l'échelle mondiale. Et ils nous avaient chacun réunis dans des pays différents. Donc moi, j'avais été convoqué à Paris. Je me souviens, c'était un bureau près des Champs-Élysées. On était au sous-sol, peut-être c'était un sous-sol. Enfin, c'était un truc assez... Et surtout, on ne savait pas exactement ce qu'on allait faire. Convoqué par Facebook, je me suis dit ok, j'y vais. Et là, les équipes de Facebook, il y a un grand écran, et là il y a David Marcus et Mark Zuckerberg qui se connectent sur écran. Et en fait, on a été briefés pendant 2 heures avec d'autres journalistes. Alors après, c'était quand même par fuseau horaire, c'est-à-dire que moi je me souviens, c'était en journée, donc ils l'avaient fait juste avant pour ceux qui étaient en Asie, et idem après pour tout le fuseau horaire Amérique. Et donc on a pu échanger avec David Marcus et Mark Zuckerberg au sujet de Libra. Et après, j'ai pu scooper, donc sortir plein d'infos sur le sujet. Et ouais, ça a été l'un de mes gros coups journalistiques avant de Big Whale.
Donc c'est encore un truc où tu nous fais croire que tu as eu une personnalité énorme.
Donc est-ce que...
Et peut-être pas.
Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Non, moi je pense que c'est vrai.
Non, moi, je crois pas que Zuckerberg était dedans. Je pense pas. Je pense que c'est faux.
Alors ?
Vrai.
Faux.
Alors, tout est vrai.
Ah, okay.
Sauf Zuckerberg.
Voilà. Je skyrocket, quoi.
Ouais, alors par contre, c'est pas possible. Tu peux pas gagner à chaque... Mais tu comptes dans le jeu ou c'est juste un match entre Jérôme et moi ?
Bah, écoute...
Après, c'est la pratique aussi. Ouais. Tu sais, elle le fait pas la première fois qu'elle fait des anecdotes. Hein.
Ouais.
C'est toute première fois.
C'est la première fois que tu fais cette...
Ouais.
Diable.
Bah,
dans la primeur donc, des bonnes...
Il faut que tu fasses à chaque fois. Hein, tu vas gagner un paquet de trucs.
Mais je pense que...
Parce que là, il y a du...
Jérôme va me faire manger du piment la semaine prochaine.
Bah voilà, bah venge-toi.
Venge-toi. Bon, conclusion, Jérôme, tu dois offrir quelque chose à la commu.
Ça marche.
Et moi, il me faut rien.
Ça va se finir en...
Ah bah tu peux aussi nous offrir quelque chose à tous les deux si
ça
tu
va
veux.
Se finir en petit déjeuner avec...
Moi je suis preneuse d'une place à Laetitia, pour rien te cacher.
Et donc très bien, je vais offrir quelque chose à la communauté, je sais pas quoi.
De toute façon on va regarder les commentaires et on y lira le meilleur.
Ok.
Ouais.
tu décideras ce que tu offres.
Cool.
On mettra la décision. Peut-être une place pour les Tissiers.
Ou si tu as envie d'offrir un abonnement The Big Whale, tu as aussi le droit. Hein. Ça marche.
Raph, il en perd pas une.
Ça marche.
Franchement, why not? En plus, un NFT qu'on envoie sur ouais. le truc et tout. Ouais, ok. Bah écoute, je propose qu'on
faire un
co-off.
Un co-cadeau.
On
va faire un co-cadeau.
Trop cool. Bah merci, les gars.
Bah merci beaucoup.
Dites-nous en commentaire qui vous voudriez voir venir pour le prochain concours d'anecdotes. Vous trouverez tous les détails pour participer dans la description de la vidéo. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.